Le débat du jour, Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. C'est une petite phrase dans le quotidien Le Parisien, la mi-novembre. Elle est signée Stéphane Bern, animateur de télévision, chargé d'une mission d'identification des monuments locaux en péril par le président Emmanuel Macron. Il faut d'urgence faire payer l'entrée des cathédrales. On est le seul pays où leur accès est gratuit. Alors l'idée n'est pas nouvelle, mais elle dérange et l'Église de France n'a pas tardé à faire savoir son opposition à cette idée. Mais cela a lancé le débat sur les moyens à mettre en œuvre pour préserver le patrimoine culturel et architectural français. Faut-il faire payer l'entrée des cathédrales et plus largement, comment financer la préservation du patrimoine, en particulier religieux? C'est la question du jour.
RFI.
Et pour tenter d'y répondre, deux invités nous ont rejoints en studio. Isabelle de Gaumin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes rédactrice en chef du journal La Croix, excellent journal, qui, comme son nom l'indique, est d'inspiration catholique. Et Maxime Cumunel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes secrétaire général de l'Observatoire du patrimoine religieux. Faire payer l'entrée des cathédrales, question simple, qu'est-ce que vous en pensez, Isabelle de Gaumin?
J'en pense que c'est pas possible en France, en fait, c'est ça le problème. Après, moi, j'aimerais bien ne pas tomber comme ça, comme tout le monde l'a fait, sur ce pauvre Stéphane Bern, qui, en réalité, n'a fait que poser une bonne question, mais avec une assez mauvaise réponse pour la France. C'est-à-dire que c'est vrai qu'à l'étranger, vous allez au Duomo de Milan, par exemple, vous payez, à Florence aussi, vous payez certaines églises. Bon, c'est différent parce que à l'étranger, les églises appartiennent aux religions, et en l'occurrence à l'Église catholique. Donc finalement, elle fait ce qu'elle veut. En France, les églises appartiennent à l'État ou aux communes. Donc si l'État commence à faire payer certaines églises, les communes vont aussi vouloir faire payer des églises. Or, la loi de 1905 stipule bien que l'État, en 1905, il a pris la propriété de l'ensemble des églises, mais qui doit assurer le libre accès et la gratuité de l'utilisation de ces lieux. Donc c'est impossible en France avec la laïcité et avec la construction juridique que nous avons.
C'est juridiquement donc extrêmement difficile. Maxime Cumunel, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on peut étudier cette question, faire payer l'entrée des cathédrales?
Alors je pense que la question c'est en réalité pas tellement cathédrale ou pas cathédrale, c'est plutôt lieux qui ont un potentiel touristique contre lieux qui n'en ont pas. Parce que vous prenez Saint-Germain-des-Prés qui n'est pas une cathédrale, le potentiel touristique est réel. Je suis pas persuadé que la cathédrale de Saint-Brieuc est un potentiel touristique qui justifie des quarts de japonais matin, midi et soir. Effectivement, aujourd'hui en France, c'est juridiquement impossible, en tout cas très compliqué, mais après, les choses pourraient évoluer. En tout cas, il y a déjà des solutions qui existent, hein, type freemium, c'est-à-dire vous payez un bout, vous payez la lumière, etc., comme ça se fait d'ailleurs à Notre-Dame de Paris. Vous payez pour le trésor, vous payez pour voir la couronne d'épines du Christ et consorts. C'est des choses qui sont faisables. Ça suppose quand même plusieurs points. D'abord, ça suppose un vrai consensus, puisque l'argent est censé revenir au diocèse. Ça suppose de flécher cet argent éventuel vers des missions de restauration. Et ça suppose surtout que cet argent ne remplace pas, si jamais il était mis en œuvre, de l'argent que donne déjà l'État. Ça doit être de l'argent pour faire mieux et pas de l'argent pour faire à la place d'eux. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose.
Alors il y a plusieurs raisons que vous avez évoquées et sur lesquelles on va revenir. Il y a aussi la réaction de l'Église catholique qui s'y est fermement opposée. Non pas pour des raisons pratiques ou juridiques, mais enfin en les évoquant également, mais parce que les cathédrales et les églises, en règle générale, l'Église les considère comme des lieux de culte et pas comme des lieux forcément touristiques.
Oui, alors après on aurait pu faire plusieurs parcours. Bon, c'est vrai qu'il y a, moi je pense qu'il y a un peu le souci de respecter un pacte, hein, qui a été passé en 1905, et c'est vrai que l'État, après tout, il n'était pas à l'époque propriétaire des églises et des cathédrales, et il a pris cette propriété. Ok, l'Église a dit « Ok, vous le prenez, mais dans ce cas-là, il faut garantir le libre accès. » Et puis, il y a peut-être aussi le souci d'avoir encore des lieux de gratuité en France. Et c'est vrai que c'est important. Donc, si on commence à faire payer les églises, il y a sans doute un symbole. D'ailleurs, c'est ça qui est intéressant.
D'accès à la culture, quelque part.
Accès à la culture et puis au culte. Oui. Parce que comment vous allez reconnaître quelqu'un qui est touriste de quelqu'un qui est pratiquant? C'est compliqué, ça. Vous allez demander aux gens « Attendez, vous venez là prier ou vous venez voir ?» Généralement, on prie et on voit. Ou voir, ça fait prier. Donc, le lien entre le culte et la culture est ténu. On peut pas dire que quand vous voyez une magnifique rosace dans une cathédrale, c'est vrai que vous pouvez avoir un sentiment d'ordre de la croyance ou en tout cas de
l'ordre
spirituel, on va dire. Ouais. Donc c'est pour ça que c'est très compliqué de distinguer. Donc je pense que, par contre, il faut effectivement réfléchir à des choses à faire avec quelques parcours qui peuvent être que touristiques. Mais de fait, il y a très peu de cathédrales où ce serait intéressant. Vous allez à la cathédrale de Versailles, pourtant on est à Versailles, ben, y a pas assez de touristes
s'il en est,
pour faire payer et pour obtenir une manne importante. Donc le problème, c'est quand même l'engagement de l'État sur ce patrimoine. Qu'est-ce qu'on veut? Et moi, je pense qu'on pourrait, vu l'émoi qu'a provoqué cette histoire, c'est-à-dire que les Français sont attachés à leur patrimoine. Ok, dans ce cas-là, qu'on fasse un peu à la manière anglaise des fondations où les gens puissent souscrire de manière assez simple, assez rapide, pour financer finalement les restaurations de patrimoine.
Alors il y a aussi une autre question, parce que c'est vrai, une des choses que dit Stéphane Bern, et on ne lui tombe pas dessus, et il a raison, c'est que à l'étranger, enfin dans les principaux monuments, vous le disiez Isabelle de Gaumin, sont payants. La Sagrada Familia à Barcelone, c'est 15 euros pour entrer. La cathédrale Saint-Paul et l'abbaye de Westminster à Londres, j'en parle même pas. Combien on peut faire payer?
Alors, je pense que la question, en fait, c'est pas
tant. Non, mais c'est une question.
Il y a certes combien on peut faire payer, mais il y a surtout.
N'en rentrons pas dans une guerre de religion.
Absolument.
Pendant ce débat,
non, mais le rapport à l'argent n'est pas le même. Il y a surtout.
En Italie, en Espagne, ils sont catholiques.
Absolument. Mais il y a surtout qu'est-ce qu'on montre. Et je pense qu'en réalité, le touriste, il serait prêt, même s'il paye pas forcément un ticket d'entrée, il serait prêt à faire un don, à condition d'avoir quelque chose qui suppose véritablement une dynamique touristique. En réalité, vous allez dans une église, même une grande église ou une cathédrale, je vous mets au défi d'être capable de repérer les œuvres d'art, d'avoir un bon éclairage, d'avoir des cartels dignes de ce nom, de comprendre ce que vous voyez. Vous avez des trésors à Paris qui sont, par exemple, absolument pas mis en valeur. Donc là, déjà, si on veut que le touriste soit sensible et puisse donner, encore faut-il déjà lui en donner pour son éventuel argent.
Ça coûte, ça, Maxime Grunel.
Ah bah, ça suppose un investissement. Mais en même temps, pour moi, je pense qu'il faut sortir du côté qui consiste à dire que le patrimoine religieux, c'est juste un coût. Certes, c'est un coût, et c'est un coût qui augmentera forcément au fil des années, parce que c'est un patrimoine qui sera vieillissant et qui coûtera de plus en plus cher. Mais c'est aussi une source de revenus considérable pour notre pays. Pensez que dans notre pays, il y a à peu près 20% du tourisme, en fait, qui est lié à des activités religieuses, et que quand vous avez, prenez Notre-Dame de Paris, puisqu'il en a été beaucoup fait mention dans ce long débat d'une semaine, vous avez 13 millions de visiteurs. Alors peut-être qu'ils ne payent pas à l'entrée de Notre-Dame, mais quand ils restent une heure à Notre-Dame, et bien après, ils ont soif, donc ils vont au café. Et au café, ils dépensent 10 euros, 20 euros, 30 euros.
Et ils achètent des souvenirs dans les boutiques.
Et ils achètent des souvenirs. Et ces boutiques, elles suscitent de la TVA, elles suscitent des impôts locaux, et donc alimentent en réalité les dépenses de l'État. Donc mon propos, c'est plus de dire que si on avait un vrai plan national qui articule le tourisme autour du patrimoine, notamment religieux, mais pas forcément que religieux, avec des initiatives un peu intéressantes, notamment du point de vue numérique, on pourrait peut-être avoir une manne d'argent touristique bien plus importante que ce qui existe aujourd'hui.
C'est du revenu indirect, ça, Isabelle de Gaumin?
Oui, c'est-à-dire qu'on pourrait effectivement, autour de la cathédrale, autour de ces églises, avoir des magasins peut-être plus substantiels, une manière de faire payer les gens de manière plus, effectivement, plus moderne. C'est vrai que quand on voit aujourd'hui les choses, c'est assez lamentable en France. Par rapport à Milan, justement, c'est où là, il y a toute une...
Absolument. Mais... Et puis, prenons... Moi, j'ai fait l'exemple. Vous allez à Saint-Louis-en-Lille. Mais Saint-Louis-en-Lille, c'est quand même un quartier touristique. Vous avez une très jolie église. Est-ce que vous savez combien de temps les gens restent en moyenne à Saint-Louis-en-Lille? Moins de 4 minutes. Est-ce qu'au bout de 4 minutes dans une église où vous n'avez pas un cartel et où vous ne voyez rien, ben, quand vous sortez, vous n'avez pas envie d'aller au café? Si vous y restez une heure parce que vous avez vu des belles choses, vous pouvez avoir envie de donner. Donc ça suppose qu'il faut la mettre en valeur d'une jolie manière, parce que le patrimoine, il existe, mais si vous ne le voyez pas, vous ne donnez pas. Donc en réalité, là, il y a un vrai sujet pour les communes, en tout cas des communes comme Paris, mais aussi pour l'État, d'avoir une politique volontariste sur le patrimoine, qui ne soit pas juste donner plus d'argent, mais surtout investir de l'argent en faveur du tourisme en particulier.
Après, effectivement, il faut de fait pas conserver ce patrimoine uniquement du point de vue touristique et financier. C'est quand même très important qu'on conserve, quelle que soit la religion d'ailleurs, hein, une dimension spirituelle. Je veux dire, un lieu de culte, c'est un lieu de culte avec sa propre circulation, sa propre signification, sa propre orientation. Donc ça, c'est vraiment important de respecter ça. C'est d'où la difficulté dans ce dialogue.
Et surtout que, pardonnez-moi de le dire, l'Église a quand même un sens très significatif dans notre histoire, parce que l'Église telle qu'elle est construite en France, c'est la maison commune, c'est-à-dire que de tout temps, en tout cas jusqu'à la création du
village,
elle était au centre, mais c'est surtout le lieu où les gens ont pris l'habitude. C'est un lieu, par exemple, où on se réfugie, c'est le lieu où on apprend les nouvelles, c'était même bien souvent l'école jusqu'au 19e siècle. Donc même si aujourd'hui ça ne l'est plus, dans l'imaginaire collectif, ça reste un élément de centralisation très important du point de vue physique ou géographique, mais aussi du point de vue intellectuel. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut avoir bien dont il faut vraiment avoir conscience dans l'imaginaire collectif de
et
nos
concitoyens. Et c'est sans doute pour ça que cette proposition a tellement suscité de réactions. C'est quoi le besoin de financement pour rénover, entretenir le patrimoine religieux? Moi, j'ai, en préparant cette émission, j'ai vu 400 millions d'euros par an. C'est à peu près ça, ou il faudrait plus, Isabelle Le Gomard?
Ah, mais il faudrait plus, parce que...
Alors moi, je pense que c'est déjà un peu plus, en réalité.
Oui.
Mais pour moi, il faudrait au moins le double ou le triple. C'est-à-dire qu'en gros, restaurer une église en France, ça coûte entre 500 000 et 1 million pour une église, disons, standard. Mais les vraies choses, c'est d'abord du patrimoine abandonné qui n'est pas restauré, y compris monuments historiques. Mais c'est surtout des travaux d'entretien qui ne sont pas menés. Je vous cite un exemple. Une église qu'on a vue il y a quelques mois, la maire actuelle m'appelle et me dit, ben voilà, pendant 15 ans, on n'a pas entretenu. Donc, moralité, on n'a pas dépensé chaque année 1 000 ou 2 000 euros pour entretenir la toiture. Aujourd'hui, la toiture est quasiment effondrée. On a de la mérule partout. Il y en a pour 170 000 euros de travaux. Donc, moyennant quoi, pour économiser 1 000 euros par an, ben, on met nos concitoyens devant une charge absolument importante de restauration à venir. Donc là, vous voyez, il y a une gestion de bon père de famille, déjà, qu'il faut mettre en œuvre.
Oui, après, il y a peut-être un débat aussi autour du nombre d'églises en France.
Oui, alors,
c'est-à-dire
qu'au-delà
des cathédrales, il y a en France beaucoup d'églises, dont un certain nombre en milieu rural qui ne sont plus utilisées. En milieu urbain aussi d'ailleurs, parce qu'on en construit d'autres et puis d'autres qu'on abandonne, etc. Donc il y a peut-être aussi, du point de vue de l'Église catholique en tout cas, à faire un travail avec l'État, avec les responsables des communes, pour voir qu'est-ce qu'on abandonne et qu'est-ce qu'on garde. C'est sûr que
et
la population française...
Voilà. Je reviens à la question juridique que vous évoquiez tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on abandonne quand c'est classé monument historique?
Alors,
on n'abandonne rien du tout,
Isabelle Le Gomard. Elles ne sont pas toutes classées monument historique, elles ne sont pas toutes à conserver. Mm-hmm. Il y a des églises aussi qui se transforment en restaurant, en hôtel. Donc là, on garde la structure, c'est juste une désaffectation.
Bah, on appelle ça
une désacralisation.
Non, le mot administratif, c'est désaffectation.
Voilà.
Moi, un des sujets sur lesquels je milite, c'est parce que cette désaffectation, elle peut exister. Elle présente quand même un certain nombre de risques sur le long terme, parce que on voit, par exemple, quelqu'un qui vous dit, bah voilà, Madame Intel va faire un centre de concert, et puis Madame Intel meurt dans 20 ans, et puis ça devient quoi? Bah, on ne sait pas. En revanche, je pense qu'il faut penser à des utilisations qui partagent soit l'espace et ou le temps. Par exemple, une église peut tout à fait, dans un village, être un conservatoire, et puis le dimanche, servir pour la messe ou pour les trois mariages de l'année, parce que c'est bien souvent ça dans les communes.
Dans des communes où, dans le Nord, ils ont fait l'expérience intéressante avec une église qui est devenue une épicerie solidaire,
Absolument.
Et puis une église le dimanche. Donc là, je trouve que c'est bien, parce que voilà, il y a
dans
le côté solidarité.
Exactement, de la co-utilisation, du partage dans le temps et l'espace. Et puis, moi, je crois beaucoup à ce genre de...
Mais je crois que le problème, c'est que souvent, les communautés catholiques ont une espèce d'attachement un peu viscéral à l'Église et refuse parfois une autre utilisation. Donc voilà, je pense qu'il faut aussi un peu de souplesse du point de vue des diocèses et des évêques pour qu'on ait cette possibilité.
Absolument. Je reviens sur les cathédrales et les grandes églises en général. Elles sont, je ne sais pas si on peut généraliser, elles sont dans quel état? Moi, je me souviens d'avoir récemment été à une église, dans une église très touristique, parce qu'elle est dans un livre qui a vendu des millions d'exemplaires dans le monde, qui s'appelle Le Da Vinci Code, et c'est l'église Saint-Sulpice à Paris.
C'est un très mauvais état.
Et à l'intérieur, il y a une fresque d'Eugène de la Croix, qui est quand même pas n'importe quel peintre, et qui est dans un état lamentable. Est-ce que c'est généralisé, ça?
Oui.
Bah, c'est généralisé, mais à Paris, quand même, il y a vraiment un problème qui concerne les églises parisiennes, que la maire n'a jamais pris à bras le corps. Et là, il y a peut-être à faire.
Il y a un vrai problème sur Paris, mais il y a un problème général en France. Les cathédrales qui appartiennent à l'État vont globalement pas trop mal, parce que l'État, pour ces cathédrales, fait quand même un travail de qualité. Il faut le dire. En revanche, sur un certain nombre de grandes églises, notamment communales, là, il y a des problèmes. Il y a un cas très spécifique à Paris où la mairie sous-investit. En gros, en moyenne, du chiffrage à l'Observatoire du patrimoine religieux, c'est une commune dépense à peu près 10 euros par habitant par an.
Stéphane Bern dit que la mairie de Paris n'a plus les moyens d'entretenir ses églises.
Alors,
est-ce que c'est plutôt une question de volonté politique?
C'est une question de volonté.
Ça fait quand même longtemps.
Au bout de ma démonstration.
Je pense que M. Delanoë était beaucoup plus sensible.
Je vais au bout de ma démonstration budgétaire. La ville de Paris dépense en moyenne 7000 euros par habitant et par an. Pour le patrimoine religieux, c'est 2 euros. C'est-à-dire que ramener au budget d'un ménage, c'est l'équivalent de son budget papier toilette. Je schématise, mais c'est la réalité. Donc, je pense que tous les ménages qui nous écoutent se doutent que s'ils achètent la moitié de papier toilette à la fin du mois en plus, ça ne va pas changer radicalement leur budget. En réalité, la mairie de Paris sous-investit chroniquement sur le patrimoine en général et le patrimoine religieux en particulier, et on est aujourd'hui dans des situations de péril. Clairement, vous allez par exemple à la Trinité ou à Saint-Augustin, vous risquez votre vie en allant à la messe. Bon, il faut le dire de façon claire. Saint-Sulpice, c'est catastrophique. Je vous cite les propos de l'ancienne adjointe au maire chargée du patrimoine du temps de Monsieur Delanoë, la même équipe est en place aujourd'hui, mais pas cette personne, qui a dit « Nous veillons à faire les travaux avant que l'état des églises ne soit irréversible. » Voilà. Qui traiterait sa maison de la même manière.
Non, et puis c'est, à mon avis, c'est à court terme, parce que comme vous le disiez très bien, je pense que Paris a une richesse patrimoniale qui passe aussi par des églises ouvertes, qu'on puisse admirer toutes ses œuvres. Donc c'est
vraiment assez dommage, parce que Paris passe à côté d'un potentiel gigantesque.
D'une manière générale, toutes les cathédrales, je reviens aux cathédrales, pardon, elles ne sont pas toutes également visitées. Derrière, on va dire Notre-Dame de Paris, Notre-Dame de Strasbourg et Notre-Dame de Reims, où ont été sacré des rois de
Chartres,
France. Chartres, effectivement.
Mais vous
ne pouvez
pas
autant visiter. Je suis allé récemment, je raconte ma vie, c'est pas grave. La cathédrale de Rodez, j'étais un peu seul dedans.
Dommage d'ailleurs, parce qu'elle
est superbe. Ouais.
C'est vrai, mais vous avez le Sacré-Cœur, vous avez Vézelay.
Donc on ne peut pas faire payer pour
entrer. De toute façon, voilà. Je crois qu'il y a 154 cathédrales, il y en a peut-être 4 ou 5 où on pourrait faire payer et ça vaudrait le coup. Les autres, non. Donc de toute façon, c'est à l'État de prendre ses responsabilités de responsable du patrimoine des cathédrales.
Et très honnêtement,
alors l'État, est-ce qu'il joue son rôle ou pas ?
Non. Et il joue pas son rôle sur le volet budgétaire, même si ça semble être un peu mieux avec l'actuel ministre, même si on attend de voir. Il joue pas son rôle en matière de police, parce que l'État, c'est aussi la police du patrimoine. Quand vous avez des communes qui n'entretiennent pas leur église, l'État ne tape pas de poing sur la table pour les mettre en demeure et le faire. Donc là, ça coûte rien, si vous voulez, de faire la police. Et ça, il faut le faire. Donc, à mon avis, ce dont on a besoin, c'est d'une vraie prise de conscience, que l'État joue son rôle, tout son rôle, et rien que son rôle en matière de patrimoine. Ça signifie qu'il faut considérablement augmenter le budget et augmenter l'ambition politique. Aujourd'hui, on ne peut pas se contenter d'un traitement
En même temps, l'État n'a plus de budget, donc il y a peut-être aussi à trouver des solutions avec le privé, de mécénat, de fondation.
Bien sûr.
On peut dire qu'il manque... C'est vrai que l'État, on voit bien d'ailleurs pour Stéphane Bern, le pauvre, il s'est fait assassiner par tout ce que les cultureux comptent en France de cultureux, donc parce que, soi-disant, il n'est pas expert, etc. Et bon, mais il propose quoi, les gens ? Ils sont fonctionnaires et ils ne voient rien d'autre que cette solution-là.
La semaine dernière, la ministre de la Culture, Françoise Nyssen, a présenté des mesures en faveur du patrimoine, et parmi ces mesures, la création d'une loterie pour la sauvegarde du patrimoine, un jeu de grattage. C'est une bonne idée ou c'est un gadget
Si vous voulez, pour moi, je pense qu'il faudrait un budget de l'ordre d'un milliard d'euros par an, quasiment.
Donc là, on parle de quelque chose qui va rapporter 30 ou 50 millions d'euros.
Patrimoine. Là, on est sur quelques dizaines de millions d'euros. Oui. C'est une anecdote. Pensez que pour simplement restaurer l'église Saint-Augustin à Paris, on parle de 30 millions d'euros de travaux.
C'est au moins, en tout cas, ça se décoince un peu. Voilà.
C'est un plus.
Et puis le loto, ça peut rapporter gros. Quand
absolument. Non, c'est mieux que l'équipe gouvernementale précédente,
parfois, mais...
évidemment. Mais pour moi, on n'a pas encore la prise de conscience nationale telle qu'elle devrait exister. Le mérite de Stéphane Bern, c'est qu'au moins, il lance le pavé dans la mare, et je l'admire beaucoup parce que, très franchement, vu tout ce qui lui tombe dessus, c'est pas facile tous les jours pour lui. Il lance un pavé dans la mare. Est-ce que ça va déboucher sur une vraie prise de conscience politique ? J'espère.
Alors justement, plus largement, est-ce qu'il y a une concurrence entre la ministre et Stéphane Bern ? Est-ce qu'on n'est pas en train d'assister à un concours, une espèce de dispersion dommageable, Isabelle de Gaumont ?
Non, je pense que Stéphane Bern, alors on peut dire c'est le côté gadget de Macron, qui aime bien comme ça mettre des gens qui ont un peu d'aura, etc. Bon, il a quand même un vrai engagement auprès du patrimoine, il mouille sa chemise.
Ça, on peut pas dire le contraire,
voilà.
Ça c'est vrai.
Il a accepté ce rôle qui n'est pas payé. Bon, voilà, pour l'instant, il s'en prend plein la tête pour vraiment pas un euro, c'est le cas de le dire. Donc voilà, non, je pense pas qu'il y ait de concurrence. Je pense qu'il a effectivement jeté un pavé dans la mare, qu'il ne savait pas où est-ce qu'il mettait les pieds. Mais je trouve qu'en France, dès que comme ça, il y a une idée qui sort, ça devient un débat idéologique pour ou contre. C'est pas le problème d'être pour ou contre. Le problème, c'est de trouver des solutions pour arriver à financer le patrimoine religieux sans déclencher des guerres de religion.
Et notamment public. Parce que le patrimoine religieux, paradoxalement, est très public. À peu près 50 000 bâtiments appartiennent aux collectivités ou à l'État. Et c'est là qu'est peut-être le hiatus, c'est que les gens pensent que l'État et l'Église sont séparés et que c'est l'Église qui n'a qu'à payer ses églises. Et d'ailleurs, quand ils voient...
C'est pas du tout le cas,
effectivement. Et c'est pas du tout le cas. Ouais. Et donc, en réalité, c'est pas un débat de catholiques, c'est un débat de citoyens.
Oui, et la loi de 1905, vous le disiez, de séparation de l'Église et de l'État, était très difficile à mettre en place. Et vu la place des religions dans le débat public en ce moment, on ne sait pas trop où tout cela pourrait mener si on rouvrait ce débat. Merci à vous, Isabelle de Gaumont. Merci, Maxime Cumunel, d'avoir participé à cette émission. Merci également à Arthur Tossou, à Charles Barré qui était à la documentation, à Quentin Bresson qui était à la réalisation. Prochain débat, même heure, même endroit. Demain, bonjour chez vous.